France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la libre pensée. Bonjour. Au micro, Christophe Biteau, vice-président de la Fédération nationale de la libre pensée. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne Pouilly. Bonjour Anne.
Bonjour.
Et Anaëlle Choctaw. Bonjour.
Bonjour.
Membres toutes les deux du conseil d'administration de la Vigie de la laïcité. Ma première question sera la suivante. Tous nos auditeurs ne connaissent peut-être pas, c'est bien dommage, mais ça va changer, la Vigie de la laïcité. Vous vous présentez comme un organisme indépendant et citoyen, c'est ce que j'ai lu sur votre site. Pouvez-vous développer cette définition et revenir rapidement sur l'historique de votre association ?
Oui, donc tout à fait. L'association La Vigie de la Laïcité est définie comme un organisme indépendant et citoyen, tout simplement parce que donc en juin 2021, le gouvernement a dissous l'Observatoire de la laïcité, qui était, pour rappel, un organisme qui était là pour conseiller le gouvernement dans ses actions à la laïcité, notamment en créant des outils avec des éléments juridiques et de terrain.
Il dérangeait certainement.
Il dérangeait un peu, en effet, notamment parce que l'Observatoire de la laïcité a montré que la volonté du gouvernement d'étendre le principe de la neutralité qui de base est une obligation de neutralité uniquement à l'État et donc aux agents publics. Et donc le gouvernement avait la volonté de l'étendre à aux citoyens et aux citoyennes. L'Observatoire de la laïcité a rappelé que c'était en contradiction et incohérent par rapport à la vision libérale de la loi de 1905. Et d'autant plus que aussi c'était contre-productif par rapport à ce qui se passe sur le terrain.
C'est effectivement une confusion entre l'État et la société.
C'est ça.
Oui, c'est ça. Et donc, au-delà de la réaction à la fermeture de l'Observatoire de la laïcité, en fait, l'association a été aussi créée en partant de ce constat-là, en fait, du constat que la laïcité, elle est brandie n'importe comment comme un outil qui est censé résoudre tous les problèmes français. Et c'est utilisé pour mener des combats, et des combats surtout pour diviser plus que pour rassembler, alors que la laïcité a été pensée comme un outil de rassemblement. Donc, la Vigie, elle a pour objet de remettre la laïcité à sa juste place comme un outil, un cadre légal pour la cohésion sociale qui s'occupe des sujets de liberté de conscience et de relations État-religion.
Alors intéressons-nous maintenant à votre action. Effectuer une veille constante sur le sujet de la laïcité, partager des informations fiables à son sujet et mettre votre expertise du sujet au service de formations pertinentes. Comment se déclinent concrètement, je dirais, ces différents axes ? Commençons par le décryptage de l'actualité.
Oui, donc l'objectif de notre travail, en fait, c'est de garantir une expertise solide qui sera partagée auprès des citoyens et donc avec ça, en fait, on va mettre en place notamment, en effet, le décryptage de l'actualité qui sera de faire une veille des événements, des décisions politiques qui seront prises au sujet de la laïcité. Et donc, l'objectif de cette veille, c'est bien évidemment de clarifier les débats, d'éviter les interprétations biaisées et de répéter quels sont les principes fondamentaux et libéraux de la loi de 1905.
Pour ce faire, vous avez des publications internet, des publications papier?
Ouais, donc on a un site internet sur lequel, en effet, on publie nos recherches, notamment nos interventions. D'accord. Et également, nous produisons une newsletter une fois par mois sur un thème donné, dans le but de mettre en avant également notre conseil scientifique.
Entendu. Alors, quel est le rôle de vos commentaires juridiques ? Vous diffusez également des travaux de recherche, j'ai lu sur votre site, justement, sur la laïcité.
Alors, sur les commentaires juridiques, c'est principalement des commentaires sur des décisions judiciaires et administratives. L'objectif, c'est d'avoir un peu une analyse rigoureuse de ces décisions à la lumière du cadre légal et constitutionnel aussi. Cette analyse rigoureuse, elle permet notamment aux personnes qui travaillent dans les administrations, puisqu'on a beaucoup de personnes et de fonctionnaires qui suivent le site de la Vigie de la laïcité, d'avoir une interprétation et des pratiques qui sont conformes à la loi. Par exemple, le dernier commentaire qu'on a publié en novembre, c'était justement sur la décision d'interdire le port du voile aux forces sportives françaises pendant les Jeux Olympiques.
C'est une question qui s'était posée également pour les accompagnatrices d'enfants, enfin d'élèves pendant les sorties scolaires. C'est effectivement tout à fait utile de le rappeler. Vous informez sur la manière dont la laïcité est perçue et vécue à l'étranger, parce que souvent on a l'impression que la laïcité c'est une histoire uniquement française, mais pas forcément uniquement.
Pas forcément. En fait, s'intéresser à l'étranger, ça permet aussi de mieux comprendre les enjeux globaux sur ces sujets-là, un peu nous décentrer sur les décisions qui sont prises en France, mais aussi de prévenir des dérives, par exemple notamment sur la décision de l'interdiction du port du voile pour les jeunes femmes sportives, pour les femmes sportives, pardon, aux Jeux Olympiques. En fait, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les fédérations étrangères, les 90% des fédérations étrangères autorisent le port du voile s'il ne dérange pas la pratique sportive. Donc ça nous permet à nous de nous re-questionner sur pourquoi cette décision, en fonction de quel référentiel juridique, référentiel social, on a décidé que les Françaises ne pouvaient pas porter le voile pour représenter leur pays.
Tout à fait. Il y a, je dirais, deux questions, et on y reviendra peut-être sur les prochains développements. L'idée qu'on peut avoir du symbole du voile, c'est une chose. L'appréciation qu'on peut porter, et puis la loi, tout simplement, qui est autorisée ou non. Une de vos dernières publications alerte, je vous cite, sur une instrumentalisation politique et idéologique d'un principe de la République, pourtant par essence nécessairement impartial. Quid de l'actualité de la laïcité ? Est-elle menacée ? Est-elle remise en cause, dénaturée ?
Alors, pour vous remettre en contexte la publication, on l'a postée, en tout cas on a commenté un colloque qui était organisé par le conseil régional de l'Île-de-France à destination des référents de la laïcité, le 29 et le 30 novembre, donc c'était tout récent. Et notre critique, elle était sur les intervenants et les intervenantes qui avaient été choisis, parce que s'il y a une partie d'entre eux qui effectivement avait une réelle expertise, il y avait une grande partie d'entre eux qui n'avaient pas d'expertise sur la laïcité et en plus avaient pris des paroles publiques qui étaient contraires à la vision libérale de 1905 ou contraires au principe de laïcité. Et quand je dis contraire, c'est par exemple des positions qui ont été prises contre le principe de séparation Église-État et des positions qui ont été prises notamment sur l'élargissement du principe de neutralité, non pas uniquement à l'État et ses agents, mais à tous les citoyens et les citoyennes françaises.
Et puis, ceci n'est pas anodin ni même isolé, parce que en général, sur les questions de laïcité, quand on donne la parole à des intervenants, ça va être davantage des idéologues, voire plutôt que des experts, voire du coup dans ce contexte du colloque des référents laïcité, qui, pour je le rappelle, les référents laïcité, ce sont donc les représentants et observateurs du respect de la laïcité à tous les échelons de la fonction publique. Et donc, concrètement, le risque avec de tels intervenants plus proches des idéologues, ça va être un discours qui va être tourné vers une défense de la laïcité plutôt que d'outiller en fait ces référents et référentes laïcité quant à l'application de la laïcité comme un outil de construction commune.
Et justement, pour revenir sur cette notion de défendre la laïcité, parce qu'en fait c'est beaucoup ça qu'on entend, et qu'il faut défendre la laïcité, que l'État doit défendre la laïcité. En fait, le terme, on ne sait pas s'il est vraiment bien choisi, parce qu'en fait, c'est presque un peu populiste de dire ça, parce qu'en fait, c'est la laïcité qui défend. C'est pas l'État qui doit défendre la laïcité. Ouais, et la laïcité, elle défend l'État, notamment, contre les ingérences religieuses, des religions, les ingérences du pouvoir religieux dans le pouvoir étatique. Mais la laïcité, elle défend aussi les religions et les croyants contre l'ingérence de l'État dans le pouvoir religieux ou dans la vie spirituelle. Et en fait, de dire qu'il faut que l'État défende, déjà, ça enlève la laïcité aux citoyens et aux citoyennes, la première chose. La deuxième chose, c'est aussi que ça crée un imaginaire qu'il y a une partie de la population qui veut attaquer la laïcité, que la laïcité est forcément malmenée par certaines personnes. Et en plus, on sait un peu les images qui sont mises derrière.
Oui, on voit bien qui on entend par certaines personnes.
Oui, voilà, exactement.
Les musulmans, pour ne pas le,
exactement.
Pour ne pas le cacher.
Pour ne pas le cacher du tout. Et donc, ça dénature complètement l'objet de la laïcité, puisque quand on se dit aujourd'hui qu'est-ce que la laïcité, on n'imagine pas que c'est la loi qui protège notre liberté de conscience et on n'imagine pas que c'est la loi qui met sur un pied d'égalité toutes les religions, puisque justement, comme vous venez exactement de le dire, il y a un deux poids deux mesures, l'État ne traite pas du tout pareil l'Église catholique que l'islam.
C'est clair, et c'est quand même assez surprenant d'entendre aujourd'hui Marine Le Pen se faire la chantre de la laïcité. Enfin, moi personnellement, je ne pensais pas un jour entendre une chose pareille. Alors, De vos propos qui explicite bien la confusion dans certains esprits, il me semble que ça nécessite des éclaircissements. Et je pense qu'il est important justement de définir bien clairement ce qu'est la laïcité, car certains entretiennent, alors pour certains naïvement, dans le meilleur des cas, mais malheureusement, on l'a dit, pour beaucoup volontairement, des confusions qui sont dangereuses et qui tentent à transformer, vous l'avez dit, une loi de liberté, parce que c'est une loi de liberté, la loi de 1905, en une loi de contrainte. Aristide Briand, un des pères de la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905, si on se réfère à la laïcité, autant se référer à un de ses pères plutôt qu'à ceux qui la dénaturent, disait la chose suivante. La loi protège la foi aussi longtemps que la foi n'entend pas dicter la loi. Alors, protéger la liberté de conscience tout en luttant contre le cléricalisme, c'est-à-dire l'ingérence du religieux dans le politique, voilà peut-être un bon résumé. Qu'en pensez-vous ?
Oui, c'est ça. En fait, la laïcité, c'est le fait que l'État garantisse que chaque citoyen et citoyenne doit pouvoir prendre pleinement sa place dans la société française sans devoir renier ce qu'il est, sans devoir renier ses convictions, qu'elles soient religieuses, philosophiques. Malgré tout, en miroir, il est essentiel de rappeler, et ce avec fermeté, que dans un état de droit, les convictions religieuses des individus ne sauraient justifier le non-respect des droits et libertés fondamentales d'autrui, des principes républicains ainsi que des lois communes.
Ouais, et on porte beaucoup quand même qu'il est essentiel de raviver un peu le narratif positif et inclusif qui avait été pensé par la loi de 1905, qui était quand même un cadre de vivre ensemble exceptionnellement pensé, et qui a été pensé pendant des années par des gens qui ont beaucoup mis d'énergie dedans. C'est un outil qui a été pensé à la fois comme un outil d'émancipation individuelle et de cohésion sociale, pour construire une société commune sur un sujet qui n'est pas facile, qui est la conviction spirituelle de l'intime, qui est un sujet d'émotion hein, quand même. Et rappeler qu'aujourd'hui, la laïcité, avant d'être un outil pour savoir comment s'habiller à l'école, c'est surtout un outil de liberté, d'égalité et de respect des convictions diverses, et que chaque élève, ce qu'il devrait savoir, c'est qu'il est citoyen français dans toutes ses convictions et que la personne à côté de lui est citoyen ou citoyenne française dans toutes ses convictions et que c'est ça la laïcité.
C'est effectivement ça la laïcité, il faut revenir à l'histoire parce que c'est important. J'avais invité il y a 2 ans Jean Bobéro qui est membre de la Vigie de la laïcité et qui avait fait une excellente émission qui résumait son livre sur la loi de 1905 n'aura pas lieu, je crois que c'est ça le titre. Le 3e tome arrive bientôt. Alors pour déborder encore un petit peu sur l'actualité, il nous reste encore 3-4 minutes pour que les auditeurs comprennent bien la différence entre le respect des consciences, c'est que effectivement la loi protège, mais elle interdit l'ingérence des religions dans le débat public et dans la politique. On a eu un exemple il y a quelques années avec le mariage pour tous, où là, de façon assez curieuse, il y avait une forme d'œcuménisme, c'est-à-dire que les intégristes, qu'ils soient musulmans ou catholiques, se rejoignaient pour interdire les gens de vivre leur amour et leur sexualité comme ils l'entendaient. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir ce même problème si revient sur le champ de l'actualité, et je l'espère, le droit de mourir dans la dignité bientôt ?
Oui, ça risque effectivement d'être, en tout cas, c'est un sujet qu'on sait que les religions vont s'en emparer. Enfin, c'est en tout cas un sujet où les croyants vont s'en emparer. Et c'est là qui est intéressant, et c'est là où la laïcité en fait va jouer son rôle. Et c'est ça qu'on veut en fait, que la laïcité rejoue son rôle, c'est que dans le cadre qu'est la laïcité, on peut avoir le débat entre croyants et non-croyants, aucun problème. Mais par contre, c'est pas l'Église catholique qui va dicter à l'État ce qui est décidé sur la fin de vie.
Et puis d'ailleurs, régulièrement, les acteurs religieux sont eux-mêmes invités à l'Assemblée nationale justement pour apporter aussi un point de vue plutôt religieux. Donc ça fait partie du débat. Mais il faut aussi donner la parole à ceux qui sont athées, donc différentes convictions religieuses et philosophiques dans le cadre de la laïcité.
Et l'année prochaine, d'ailleurs, ça va être les 120 ans de la loi.
Absolument, un 1905. Moment important.
Et nous, ce qu'on espère, en fait, l'année prochaine, c'est justement, en tant que vigie de la laïcité, c'est que la laïcité qu'il y ait un débat public à l'occasion de ce vote de la loi de 1905 et que ce débat se fasse dans un cadre vraiment laïque, à savoir qu'on mette en avant des discours plus basés sur l'inclusion que l'exclusion, et par exemple sur des thématiques qui pourraient être comme la mixité sociale, parce que le constat est fait qu'il manque de mixité sociale dans l'habitat ou encore dans les publics scolaires, que donc il y a des replis et des préjugés se font parce qu'on connaît de moins en moins l'autre. Et donc nous, ce qu'on aimerait montrer en tant qu'association, c'est que la laïcité, c'est un formidable outil pour faire ensemble au sein justement d'une population qui, elle, est plurielle.
Alors l'année prochaine, c'est le 120e anniversaire de la loi de 1905, vous l'avez dit. La Libre Pensée va organiser un grand colloque, un grand meeting plus exactement, pour fêter cet événement. La vigie de la laïcité sera bien évidemment invitée, j'espère vous y retrouver.
Ouais.
Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Et comme il nous reste une minute, en une minute, peut-être que... On n'est pas à la télé, on est à la radio, donc ça se voit pas forcément. Mais peut-être que ça s'entend à la voix. Vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Donc, comment est perçue la laïcité en quelques secondes chez les jeunes?
La laïcité, généralement, les jeunes voudraient que ce soit justement cet outil d'ouverture du faire ensemble, et que le constat est fait qu'ils voient sur les médias ou lors de discussions politiques que c'est plutôt un interdit. Et donc justement, c'est pour ça qu'on parle de cette volonté de présenter la laïcité comme cet outil de faire ensemble, parce que c'est aussi la volonté des jeunes.
Eh bien écoutez, c'est une note d'espoir. J'espère que les jeunes s'investiront pour la défense de la liberté au sein de la Vigie, mais également au sein de la Libre Pensée. Je les invite à nous rejoindre. Notre émission arrive maintenant à son terme. Il ne me reste plus qu'à remercier mes invités, Anne Plouy, merci Anne, et Anaëlle Choctaw, merci.
Merci.
Rafik Zénine à la réalisation, Jean-Guilain Meige à la technique et Claire Poinsignon à la production. Si les propos de ce jour vous ont intéressé, je vous invite à vous abonner à La Raison, notre mensuel, via le site fnlp.fr. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission qui va lever des fantasmes, puisque nous allons parler de la franc-maçonnerie et de la libre-pensée. Merci.